Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance et soyez couverts en cas de maladie, de perte ou de vol de bagages durant vos voyages.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler des infections urinaires, irritations, brûlures, des troubles ponctuels ou qui récidivent. Pas simple pour beaucoup d'entre nous de parler de ces problèmes, de décrire dans le détail les symptômes, parce que ces questions tout simplement peuvent toucher l'intime, ces infections peuvent relever du tabou. Des problèmes qui peuvent donc être gênants, douloureux, obsédants. C'est vrai en particulier pour les cystites chez les femmes qui peuvent revenir de manière répétitive, empoisonner l'existence. D'ailleurs, nous le verrons au cours de cette émission, un certain nombre d'infections sont davantage féminines que masculines. Avec nos invités, on tentera de comprendre précisément le caractère récidivant de ces cystites. En nous joignant au 33 7 61 18 46 41, vous pourrez témoigner quels médicaments ou mesures vous ont permis de venir à bout de ce problème. À l'inverse, êtes-vous toujours à la recherche d'un traitement efficace ? Qui avez-vous consulté ? Vous avez la parole dans Priorité Santé. Vos questions, bien sûr, pour avoir des explications, celles d'un spécialiste, le docteur Jean-Marc Bobotte. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue, andrologue, également responsable de l'unité génitale, directeur médical de l'Institut Alfred Fournier à Paris, président de l'Académie du microbiote urogénital, et vous avez consacré un livre à ce sujet, Cystite, le cauchemar féminin, publié chez Flammarion. On retrouvera tout à l'heure en Mauritanie l'un de vos confrères, le professeur Mohamedou Diagana. Il est médecin chirurgien urologue, professeur agrégé d'urologie à la faculté de médecine de Nouakchott. Et puis, la lutte contre les pandémies dans un contexte de tensions internationales et de baisse des financements. En fin d'émission, nous allons donner la parole à la responsable régionale Afrique pour le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, Cathy Falso.
Priorité santé sur RFI.
Les infections urinaires au pluriel, ça fait réagir nos auditrices, nos auditeurs. Docteur Jean-Marc Bobotte, on commence tout de suite avec une question, puisque c'est Mamadi de la Guinée de Sigiri qui demande « Combien de types d'infections urinaires existent-ils ? »
Alors, on parle de cystites, il peut y avoir des cystites simples et des cystites compliquées. Les cystites compliquées, c'est des cystites qui n'ont pas été toujours traitées à temps ou qui se développent sur un terrain particulier chez des gens qui sont diabétiques, par exemple. Et donc là, effectivement, la prise en charge est complètement différente. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces infections ont un dénominateur commun. Ce sont des bactéries qui sont essentiellement originaires de l'intestin et en particulier, en premier lieu, dans 75 à 80% des cas, une bactérie qui s'appelle Escherichia coli et qui va contaminer la vessie. Et à partir de là, si les traitements ne sont pas mis en route de bonne heure, il y a des risques de complications.
Est-ce que toutes les infections urinaires sont des cystites, docteur Bobotte ?
Alors, cystite, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que cystite, ça peut être une inflammation de la vessie sans qu'il y ait infection. Mais les infections urinaires, elles se traduisent par toujours des cystites, c'est-à-dire des brûlures en urinant, des envies d'uriner fréquentes, parfois du sang dans les urines, ce qui inquiète beaucoup les patients ou les patientes. Mais ce n'est pas un critère de gravité, c'est normal. Hein. Quand la muqueuse de la paroi de la vessie est irritée, elle peut saigner.
Alors, sur WhatsApp, question de Déborah du Burkina Faso qui demande comment reconnaître une infection urinaire d'une infection vaginale.
C'est pas toujours évident, je suis bien d'accord avec elle. Et effectivement, bien souvent, en particulier pour les mycoses, les femmes, elles ont souvent des brûlures quand elles vont uriner parce que la vulve est irritée et quand l'urine sort, ça brûle. La différence, c'est quand même qu'il y a des symptômes vaginaux, c'est-à-dire qu'il y a souvent des pertes, des irritations ou des douleurs lors des rapports sexuels, ce qui n'existe pas quand il y a des cystites.
Alors, reconnaître ces signes, vous avez parlé justement, on pense tout de suite aux brûlures hein, comme signe. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes caractéristiques ?
Oui, c'est des envies d'uriner très fréquentes, c'est parfois même des pertes d'urine. On a du mal à se retenir et les femmes sont effectivement très gênées dans leur vie quotidienne et dans leur vie professionnelle et dans leur vie génitale, sexuelle également, bien évidemment.
Et c'est insupportable, on va dire, ça monte à la tête, on voit la connexion directement entre le cerveau et tous les organes, c'est insupportable.
Ah oui, absolument, il y a le retentissement psychologique de ces infections, surtout à répétition, c'est vraiment à prendre en compte.
Est-ce qu'il y a certaines infections urinaires qui ne sont pas des cystites ou d'autres infections dans cette sphère qui peuvent se développer de manière insidieuse sans signes extérieurs?
Oui, et en particulier chez la femme enceinte, on sait que les infections urinaires peuvent très bien ne pas donner de symptômes particuliers, ce qui fait que dans le suivi de la femme enceinte, on fait souvent des tests urinaires régulièrement, même s'il n'y a pas de symptômes. Et puis, il existe d'autres infections qui sont des infections sexuellement transmissibles, qui peuvent donner des symptômes voisins de la cystite, alors qu'en fait, ce ne sont pas les mêmes bactéries du tout.
Pourquoi on explique ça chez la femme enceinte en particulier? C'est une question d'immunité?
C'est ça. Et puis les muqueuses changent pendant la grossesse. Donc la réceptivité n'est pas la même. L'inflammation n'est pas toujours la même. Et surtout, on sait que chez la femme enceinte, une infection urinaire qui n'est pas traitée, ça peut être très embêtant puisqu'il y a souvent des complications plus fréquentes et plus importantes au niveau des reins.
On a entendu déjà depuis qu'on échange depuis le début de cette émission, on parle des femmes en particulier. Alors c'est une réalité statistique épidémiologique. Les infections urinaires, les cystites sont plus fréquentes chez la femme que chez l'homme. Pourquoi tout simplement?
Pour des raisons anatomiques. Hein. Encore une fois, les bactéries responsables de cystite sont souvent des bactéries qui viennent de l'intestin. Et donc, chez la femme, le rectum étant plus proche du méa urinaire que chez l'homme, les bactéries n'ont qu'un chemin très court à faire pour atteindre la vessie.
Explication, question, Dieudonné de Baraka en RDC, République démocratique du Congo, il voudrait savoir si les infections urinaires sont arrangées parmi les maladies sexuellement transmissibles ou non.
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 Absolument pas.
Et voilà, une réponse efficace. Docteur Jean-Marc Bobod, on va parler tout à l'heure avec les auditeurs en direct des différentes situations, des prises en charge, des traitements. Et il y a quelque chose qui revient souvent dans les questions sur la cystite, c'est on a une cystite, on en a deux, on en a plusieurs, on en a plein. Pourquoi autant de récidives? Et on peut même parler, dans certains cas, d'infections urinaires chroniques?
Oui, absolument. Donc les raisons sont multiples. D'abord, il y a des terrains prédisposants, en particulier des femmes qui sont diabétiques, par exemple, ou des femmes qui ont des problèmes d'immunosuppression. Mais bien souvent, c'est des infections qui viennent pour des problèmes de comportement, c'est-à-dire que les femmes ne boivent pas suffisamment, ou se retiennent d'uriner. C'est valable surtout pour la petite fille, d'ailleurs. Et puis, il y a d'autres explications, c'est que les bactéries qui peuvent atteindre la vessie peuvent se développer à l'intérieur de la paroi de la vessie. Et donc, les antibiotiques, souvent, sont inefficaces. Donc, on prend des antibiotiques, on va mieux, et 8 jours après, ça recommence, parce que les antibiotiques n'ont pas éliminé complètement les bactéries qui peuvent rester à l'intérieur de la vessie. Donc, on a des médicaments maintenant, on a des produits qui deviennent de plus en plus prescrits, en particulier le fameux cranberry, donc la canneberge, mais aussi le démanose, qui est une molécule qui est extrêmement intéressante et qui empêche les bactéries de se fixer sur la paroi de la vessie et qui vont même décoller les bactéries qui sont déjà fixées. Donc, il faut vraiment voir avec son médecin ou son pharmacien des solutions alternatives aux antibiotiques.
Cranberry en gélule ou en boisson?
Alors, il vaut mieux en gélule parce qu'il faut une concentration importante. Quant au démanose, c'est des petits sachets qu'on peut prendre tous les jours et qui vraiment permettent d'entretenir la muqueuse de la vessie.
Je reviens à quelque chose que vous avez dit brièvement, les petites filles qui se retiennent d'aller aux toilettes en particulier. Il ne faut pas mettre en cause leur comportement. Il faut peut-être s'interroger sur l'hygiène des toilettes, les conditions d'intimité dans les toilettes quand on va à l'école. Bref, tout un environnement néfaste qui va contribuer à ce genre de comportement.
Je suis parfaitement d'accord. Et donc, les petites filles, elles ont peur de demander, de lever la main pour dire qu'elles ont envie d'uriner.
Et très souvent, il n'y a pas de papier toilette dans les WC. Ça aussi, ça empêche d'aller aux toilettes.
Voilà. Et puis alors, parfois, les vêtements aussi, les leggings qui ne sont pas toujours faciles à baisser. Elles sont pressées, elles entendent les copines à côté. Donc vraiment, les conditions pour uriner dans les écoles, c'est à revoir complètement.
À revoir complètement. On s'intéresse à cet appareil urinaire, notamment chez l'homme. Il y a Dada de Nouakchott en Mauritanie qui voudrait comprendre s'il y a un rapport entre certaines infections urinaires et des maladies de la prostate, voire même des maladies qui touchent les reins.
Oui, alors pendant très longtemps, on a dit que les hommes ne faisaient jamais de cystite et quand il y avait une infection urinaire, c'était une prostatite, une infection de la prostate. Maintenant, on est revenu un peu en arrière, on sait que les hommes font vraiment des infections urinaires simples. Mais c'est vrai que bien souvent, l'infection urinaire peut se développer, grimper jusqu'au niveau de la prostate et là, effectivement, c'est des infections beaucoup plus difficiles à traiter parce qu'il faut des cures d'antibiotiques pendant des semaines et des semaines. Et si ça continue, l'infection peut grimper encore au niveau des reins. Et là, avec des complications et des traitements antibiotiques beaucoup plus sévères.
Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les premiers symptômes, il ne faut surtout pas les négliger.
Absolument. Et tout de suite consulter son médecin et surtout pas prendre n'importe quoi, pas foncer dans l'armoire à pharmacie pour prendre n'importe quoi.
On ne prend pas n'importe quel antibiotique qu'on a pris pour une angine, par exemple.
Exactement, ce n'est pas les mêmes antibiotiques. Et souvent, on a des résistances de plus en plus fréquentes aux antibiotiques.
Alors, première question en direct, on part pour le Cameroun.
RFI à Yaoundé. 105.5 FM.
Et en ligne avec nous, c'est Solange. Solange, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Solange.
Alors, vous avez 45 ans, Solange. Vous, ce qui vous préoccupe, c'est aussi une question d'hygiène collective, lien entre toilettes publiques et l'inconfort urinaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, justement, ça vous pose des problèmes dans votre quotidien ?
Oui, moi, ça me pose des problèmes. Chaque fois que j'entre dans des toilettes publiques, je ressors avec des symptômes bizarres, des sensations de brûlure ou de douleur. Et immédiatement, un besoin d'uriner qui s'installe pendant environ 3 jours. Et mon problème, j'ai pas encore consulté pour le moment, mais un ami médecin m'avait dit que ça pourrait être ça, et que chaque fois que j'ai ces symptômes-là, je dois seulement boire de l'eau en attendant. Donc, c'est ça mon problème. Moi, ça m'arrive seulement quand je suis dans les toilettes publiques. Mais quand je suis à la maison, en famille, je n'ai pas ce problème-là.
Et vous avez observé, Solange, une amélioration quand vous vous hydratez beaucoup? Après, ces sensations de gêne, de malaise ou de brûlure, ça passe?
Oui, ça passe. Ça passe, oui, Caroline, ça passe.
Mais globalement, quand vous entrez dans ces toilettes publiques, vous êtes dégoûtée, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est quand je suis dans les toilettes publiques que ça arrive.
Alors, on va écouter vos questions, Solange. Je vous en prie, allez-y.
Je voudrais savoir comment attrape-t-on ces infections-là, les infections urinaires. Est-ce que ça peut aussi s'attraper comme ça dans les toilettes publiques?
Qui viendrait donc plus de l'extérieur que quelque chose qui est lié à votre physiologie. Docteur Jean-Marc Bobotte, évidemment, on ne peut pas dire à distance si ce dont souffrait Solange dans ces cas-là, c'était oui ou non une infection urinaire. En tout cas, elle dit qu'elle a des symptômes évocateurs, elle a un vrai rejet de ses toilettes publiques. Et sur, comment est-ce qu'on attrape, entre guillemets, le microbe de l'infection urinaire ?
Jamais dans les toilettes.
Oui.
Jamais dans les toilettes. En fait, ce qui se passe, c'est quand on rentre dans des toilettes qui ne sont pas propres, on a souvent l'impression de mal-être.
De se salir, ouais.
Et on se contracte et on ne vide pas suffisamment sa vessie. Et en ne vidant pas suffisamment sa vessie, évidemment, on a des sensations de brûlure, des sensations de malaise, sans que ce soit vraiment une infection. Quand on est chez soi, on va uriner, on est détendu, on vide complètement la vessie. Et donc, le conseil que lui a donné son ami médecin est très bien, c'est boire beaucoup pour remplir la vessie et pouvoir vider davantage. Mais on n'attrape pas de cystite sur les toilettes publiques.
Encore une fois, ça pose la question de l'hygiène, de l'accès à des infrastructures qui sont sécurisantes d'un point de vue de l'hygiène pour tout
Exactement.
Le monde.
Exactement.
Merci beaucoup, Solange, pour votre question. On a une question assez proche d'un autre auditeur, Émile de Lubumbashi, qui explique avoir entendu dire que les toilettes mal entretenues favorisent les infections urinaires car les microbes remonteraient vers la vessie.
Non.
Non.
C'est absolument impossible. La quantité de microbes qu'il peut y avoir, même sur des ronds de toilettes, est infime. Et donc, c'est absolument impossible. Donc, la réponse est non.
La réponse est non et elle est très simple. Donc, docteur Bobotte, on va poursuivre cet échange et on va prendre d'autres auditeurs en ligne en direct dans quelques minutes. On va se retrouver juste après ce titre de Mira, Où vont les larmes, dans Priorité Santé sur RFI.
Je sens, j'ai trouvé où sont les larmes cachées. Je sens, j'ai trouvé où sont les larmes cachées. Nas águas escuras eu mergulharei.
Nas águas escuras eu mergulharei.
Où vont les larmes que l'on garde? Où vont les larmes gardées? Depuis ce matin je regarde la tristesse couler. Je sens, j'ai trouvé. Je sens, j'ai trouvé. Où sont les larmes cachées?
Priorité santé sur RFI, on parle aujourd'hui des infections urinaires avec, pour répondre aux questions en direct, avec nous en studio, docteur Jean-Marc Bobotte, infectiologue, andrologue à l'Institut Alfred Fournier à Paris. Docteur Bobotte, c'est toujours à notre numéro WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 qu'un autre auditeur du Congo de Goma a posé une question, c'est Didier Rau. Il demande quelles peuvent être les conséquences d'infections urinaires répétitive. Est-ce que le risque, c'est la répétition ou est-ce que le risque, c'est le retard de prise en charge ?
Les deux. Mmh. La répétition, ça peut provoquer effectivement des inflammations chroniques de la vessie. Et puis, à terme, ces infections peuvent effectivement évoluer vers des complications, en particulier au niveau des reins. Donc, ce qu'il faut, c'est encore une fois traiter avec le bon antibiotique, traiter suffisamment longtemps. Alors maintenant, on a des traitements dits minutes, hein, c'est-à-dire qu'on donne un sachet d'un antibiotique, en particulier la fosfomycine, et ça marche bien. Parfois, il faut des traitements un tout petit peu plus longs, parce que si on arrête le traitement trop tôt, on a malheureusement peu de chances d'éliminer complètement les bactéries à l'intérieur de la vessie.
Quand on parle de complications sérieuses des infections urinaires, on parle de quoi ?
Les infections s'appellent les pyélonéphrites, qui sont des infections des reins qui donnent de la fièvre et qui donnent des douleurs dans le dos. Hein. Donc, une femme qui se plaint de cystite, normalement, ne doit pas avoir de fièvre. Si elle a de la fièvre, si elle a plus de 38, il faut absolument voir son médecin rapidement. Ça peut être une infection des reins.
Ça peut même être une urgence hein, dans ces cas-là. Bien sûr. Le médecin n'est pas disponible, on imagine le week-end ou qu'on est loin de la maison.
Il faut aller aux urgences.
On a maintenant un auditeur qui est en ligne du Tchad de N'Djamena. C'est Oumar Yahya. Oumar Yahya, bonjour.
Bonjour, Caroline Paré. Bonjour à vos invités.
Bonjour.
Bonjour à vous. Alors, vous appeliez au sujet de proches, hein, des gens de la famille qui vivent au village. Qu'est-ce qui leur arrive, Oumar Yahya ?
Problème urinaire.
Ouais.
Infection urinaire, plutôt.
Oui. Ils en parlent avec vous. Ils vous ont dit qu'ils avaient quel type de symptômes ?
Bon, leur problème, après avoir consulté les médecins, ils disent qu'ils ont boule dans leur vessie.
Mmh. C'est douloureux dans leur vessie. Est-ce que ça arrive à des moments particuliers de l'année pour votre oncle et votre tante ? À quel moment ça arrive ?
Entre mars et avril.
Et à ce moment-là, c'est quoi le climat, la température au Tchad ?
Au Tchad, maintenant, bon, je ne sais pas, je n'ai pas visité le météo.
Oui, mais ce que je veux dire, est-ce que ça arrive à un moment particulier ? Est-ce qu'il y a des choses qui changent dans l'environnement ou est-ce qu'il n'y a rien de particulier à cette période-là ?
Changement climatique, il fait très chaud.
Il fait très chaud. Est-ce que vous avez posé des questions à votre oncle et votre tante par rapport à leur hydratation, ça veut dire leur consommation d'eau ? Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ?
Bon, là-bas, j'ai au village, ils n'ont pas l'eau potable. Et... Bon, il n'y a pas plus, beaucoup de...
Ça veut dire qu'on ne boit pas tout le temps de l'eau quand on a soif, on fait plutôt attention, on boit plutôt du thé, de l'eau qu'on fait bouillir, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Mmh. Donc, c'est quoi, vous, vos questions, Oumar Yahya ? On vous écoute, allez-y.
Ok, j'ai des questions. La première, c'est comment prévenir ces infections avec des moyens simples à la maison.
Alors,
la deuxième, quand faut-il s'inquiéter et aller voir un médecin ?
Alors là, dans le contexte des gens de votre famille, on a bien compris, ils sont au village, il n'y a pas de pharmacie à portée de main. Parce que je dis ça tout à l'heure, on parlait d'un médicament qui est utilisé par exemple en Europe, qui est un médicament à base de fruits, de plantes, c'est le cranberry. Évidemment, des gélules de cranberry, quand on est en brousse au Tchad, autant dire que ce n'est pas du tout accessible. Il faut être réaliste à un moment donné. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ses proches d'Oumar Yahya ?
Dans la mesure du possible, et c'est franchement pas facile, hein, c'est essayer de boire quand même le plus possible. Mmh. Hein, c'est vraiment la seule mesure qu'on peut conseiller quand on est un petit peu dans l'urgence et qu'on peut pas consulter. Et surtout, ne pas prendre n'importe quel médicament, n'importe quelle décoction, parce que ça peut aggraver les choses. Malheureusement, plus on traite rapidement, mieux ça vaut. Et c'est pas toujours simple, je suis tout à fait d'accord.
Ça veut dire peut-être qu'il faut anticiper, faire bouillir de l'eau à l'avance, la faire refroidir, la garder dans un endroit sain, une petite organisation au niveau du quotidien, c'est pas des médicaments, mais c'est boire plus, tout simplement. Est-ce que vous pensez que c'est possible, ou Mariaya?
Oui, c'est possible.
Leur donner des conseils simples, vraiment. Ce qu'a dit le médecin, boire plus, c'est la meilleure chose à faire pour eux.
D'accord.
Voilà. On vous souhaite une très très bonne journée à N'Djamena. On a un auditeur, bon, on est toujours au Tchad, hein, cette fois c'est à Abéché, où on retrouve sur place Chenseki. Bonjour Chenseki.
Bonjour madame, bonjour à l'équipe de Priorité Santé. Merci d'avoir m'accueilli sur la fréquence 100.5 FM.
Vous êtes parfait, en plus vous donnez la fréquence, c'est parfait, 100.5. Vous aussi vous êtes sujet, Chenseki, à des infections urinaires, vous avez 24 ans. Est-ce que pour vous aussi c'est plus souvent quand il fait chaud?
Effectivement, ça intervient dans la période des canicules, mais je recevais cette douleur ou soit cette infection quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire quand, en 2021. Donc, je souffrais de cette infection il y a un peu plus de 5 ans maintenant.
Ouais.
Et alors, comme je le disais tout à l'heure, que cela intervient pendant la période des canicules.
Oui.
J'exprimais aux parents que voilà, j'ai des douleurs ou soit des infections urinaires et les parents m'ont dit donc il faut surdoser la consommation d'eau et pour peut-être laver la vessie ou soit filtrer l'urine. Mais j'ai surdosé la consommation et puis cette infection n'a jamais cessé. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 5 ans que je vivais avec source.
Excusez-moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc, vous avez suivi ces conseils, vous avez bu plus d'eau. Est-ce que vous avez encore des symptômes aujourd'hui?
Effectivement, jusqu'à là où je vous parle.
Vous avez encore des symptômes. Est-ce que vous avez vu un médecin? Est-ce que vous avez fait des tests?
Malheureusement, non. Je n'ai pas consulté un médecin généraliste ou spécialiste.
D'accord.
Mais
excusez-moi. Chenseki, je vous pose une question très simple. Pourquoi vous n'avez pas consulté? Parce qu'il n'y en a pas à bêcher? Parce que ça coûte trop cher? Qu'est-ce que vous avez comme petite explication?
C'est un problème familial, puisque la famille me dit sinon c'est une période de canicule et ça arrive à
d'accord,
tout le monde.
D'accord.
Tu vas voir du moment où la chaleur va partir et que tu vas commencer à uriner bien. Et
d'accord.
C'est à ce niveau-là que
ouais.
C'est ça.
Mais donc, si vous nous appelez, c'est que vous n'êtes pas vraiment convaincu, vous avez besoin d'autres explications, parce que finalement, ça fait 5 ans, les explications de la famille, c'est une chose, ça peut être très très utile, hein, c'est bien, mais sauf qu'aujourd'hui, les symptômes, ils sont toujours là, c'est ça?
Les symptômes sont toujours là. Donc, aujourd'hui, c'est une forte chance pour moi de tomber sur ce thème et pour pouvoir...
Aujourd'hui, vous buvez combien d'eau, Chenseki?
Je prends l'eau de 6 litres de plus par jour.
6 litres, c'est beaucoup, beaucoup quand même. Finalement, si vous buvez autant et que ça ne passe pas, a priori, ça ne fonctionne pas ce système. Docteur Jean-Marc Bobotte, là, il reste depuis très, très longtemps avec des douleurs, avec des problèmes. Jusqu'à présent, il n'est pas allé consulter. Chenseki, ce serait bien qu'il y aille quand même.
Oui, parce que les symptômes qu'il évoque, en particulier des douleurs dans le dos, au niveau des reins, des douleurs qui descendent dans les testicules, ça peut parfaitement être un symptôme de calcul dans les reins. Calcul dans les reins, donc c'est des petites pierres, c'est du sable qui est dans les reins, qui donne ces douleurs, cet inconfort au niveau des reins, et ça peut être des douleurs qui descendent jusque dans les testicules. Et donc là, c'est un facteur effectivement favorisant les infections. Mais s'il n'y a pas un examen de la part d'un spécialiste, ça va durer, puis il peut y avoir des complications beaucoup plus importantes. Donc là, vraiment, le conseil, c'est il faut voir un médecin pour faire des examens très complets.
Très complet. Est-ce que vous avez une possibilité, Chenseki, d'aller à N'Djamena pour rencontrer un médecin ou c'est compliqué?
Oui, j'ai la possibilité. D'ici à la fin de, au mois de juillet, je vais faire un déplacement vers Gamela.
Eh ben, c'est très conseillé. Allez voir un médecin, parler de ses problèmes. Vous êtes dans la fleur de l'âge à 24 ans. Il ne faut pas rester avec un problème de santé comme ça. On a une question WhatsApp avant de prendre un de vos confrères en ligne de la Mauritanie. C'est Moussa de Doubreka au Guinée. Il a pris la peine de nous écrire pour parler de quelque chose d'assez personnel. Je vais me faire sa porte-parole. Il a 25 ans, il a des infections urinaires depuis 5 ans avec douleur au moment d'uriner. Il a constaté aussi qu'il avait une éruption cutanée au niveau du pénis. Il va à l'hôpital deux fois par mois et il a dit qu'il avait du sang, des examens de sang, des examens d'urine avec une recherche d'IST. Il revient avec un bilan négatif et on lui a quand même prescrit des antibiotiques pour des infections urinaires. On lui a là encore conseillé de boire beaucoup d'eau, porter des sous-vêtements en coton, éviter les vêtements serrés. Il dit que ça va un peu mieux, mais ça revient toujours. Donc, qu'est-ce que ça peut être ? Bien évidemment, pas de diagnostic à distance, pas d'avis définitif, mais néanmoins des pistes, docteur Bobot.
Oui, ce qui m'étonne un tout petit peu, c'est la corrélation entre les brûlures en urinant et des lésions qui se développent sur la verge. En aucun cas, une infection urinaire ne peut donner ce genre de problème. Donc, la piste, ça serait quand même peut-être une infection sexuellement transmissible. Donc, il faut dire que le bilan pour infection sexuellement transmissible, ça ne se résume pas à faire une prise de sang pour vérifier le VIH. La prise de sang, ça sert aussi à vérifier la syphilis. Hein, ça, c'est très important. Elle est en grande recrudescence.
Oui, parce que je vous interromps. Quand on cherche une IST, on recherche une IST. Donc, si on veut élargir le champ et être certain, il faut vraiment en rechercher plusieurs.
Voilà, c'est ça. Et effectivement, il faut une analyse d'urine complète avec une recherche de gonocoque, de chlamydia et éventuellement même une prise de sang pour chercher l'herpès hein, s'il y a des lésions au niveau de la verge. Donc, il faut vraiment un bilan complet.
Donc, il faut aller dans un service d'infectiologie oui. où on va rencontrer un médecin, lui parler de ses problèmes, les yeux dans les yeux, tranquillement, sans s'angoisser, et en disant qu'il faut vraiment rechercher parce que là, a priori, pour Moussa de la Guinée, ça fait des années qu'il est en train de rechercher justement l'origine de ses douleurs. Et là, en l'occurrence, boire de l'eau, ça ne résoudra pas le problème.
Sûrement pas.
Ça lui fera du bien peut-être pour la santé de ses reins, mais pas du tout pour se débarrasser de cette infection. Et comme promis, on part tout de suite pour la Mauritanie.
RFI à Nouakchott, 103.3 FM.
En ligne tout de suite, on retrouve le professeur Mouamedou Diagana. Bonjour professeur.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin chirurgien urologue, professeur agrégé d'urologie à la fac de médecine de Nouakchott. Professeur, c'est quoi les maladies et les complications les plus fréquentes que vous prenez en charge à l'hôpital Cheikh Zayed de Nouakchott où vous êtes chef du service d'urologie ?
Bonjour à tous, bonjour à l'auditoire, et bonjour à mon collègue qui est sur votre plateau.
Bonjour.
Alors, dans notre service d'urologie à Mauritanie, qui est un service d'urologie, donc ici côtoie les pathologies urologiques les plus fréquentes, l'hypertrophie bénigne de la prostate en tête de ligne, les maladies de calcul urinaire, qui sont très très fréquentes chez nous, et bien entendu, notre sujet du jour, les infections urinaires des plus banales aux plus compliquées. Et voilà, grosso modo.
Et c'est vrai qu'en milieu tropical, il y a une maladie dont on n'a pas parlé qui peut avoir des symptômes sur la sphère de la vessie et la sphère urinaire. Il faudrait peut-être en parler aussi pour que nos auditeurs ne se mélangent pas un petit peu les choses. C'est la bilharziose. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ?
Alors, la bilharziose urogénitale est une maladie parasitaire. Donc, c'est une maladie parasitaire qui se transmet par l'eau douce, donc c'est des parasites qui sont dans l'eau douce, les eaux stagnantes. Donc ça atteint les sujets qui font de l'agriculture, qui habitent au bord des eaux stagnantes, autour des lacs, des lagunes. Voilà, donc l'infection s'est faite en entrant dans l'eau douce. C'est pas en le buvant, mais c'est en entrant. C'est une infection qui se fait par la peau. Donc sur le plan urinaire, pour aller vite, elle se manifeste par ce qu'on appelle des gouttes de sang à la fin de la miction. Donc, le patient va uriner, il va sentir qu'il y a des gouttes de sang à la fin de la miction, bien entendu associées parfois à des brûlures mictionnelles, à des douleurs pelviennes, qui fait le tableau d'infection urinaire classique. Mais l'élément le plus important, ce sont ces gouttes de sang qui se voient à la fin de la miction.
Donc, bien évidemment, si on a ce symptôme, il faut absolument consulter. Je pense en particulier aux petits-enfants qui vont se baigner dans les eaux pour se rafraîchir quand il fait extrêmement chaud. Quand ces enfants se plaignent d'avoir du sang, quand ils ont dit trivialement, quand ils ont terminé de faire pipi, eh bien, il faut vraiment consulter. Là, ce n'est pas une infection urinaire, c'est tout autre chose. Alors, professeur Diagana, on va revenir vers notre sujet. Est-ce que vous constatez que vos patients... Hélas, on va dire, ils viennent consulter avec pas mal de retard.
Alors, on a deux types de patients. Il y a ceux qui viennent pour les premiers bobos, vraiment la première brûlure mictionnelle, la première goutte de sang ou la petite douleur. Mais dans la majorité des cas, malheureusement, c'est ceux qui viennent dans les tableaux où la complication est déjà installée. C'est un dommage parce que c'est des patients qui pouvaient être pris en avant l'aggravation. Mais malheureusement, oui, on a beaucoup de cas. Dans la majorité des cas, ils viennent en retard déjà avec des complications déjà installées.
Mmh. Oui. Et est-ce que vous êtes aussi face à des patients ou des patientes, hein, parce qu'on a parlé en particulier du cas des femmes, qui viennent avec des infections urinaires à répétition?
Tout à fait. Dans cette sphère urologique, nous recevons beaucoup de femmes, surtout dans le domaine des infections urinaires. Il y a celles qui viennent d'emblée directement à leur première infection urinaire et... Effectivement, on a ce lot de patients qui ont des infections urinaires à répétition. Et j'attire l'attention tout de suite, quand on a ces infections urinaires à répétition, là, on est obligé d'aller dans l'exploration pour voir est-ce qu'il n'y a pas de l'automédication, est-ce que les diagnostics ont été clairement faits, est-ce qu'il n'y a pas ces lits bilharziens, et plus, voire même, certaines maladies vésicales très sérieuses peuvent se manifester au début par ces infections urinaires à répétition. Je pense également au cancer de vessie, notamment.
Alors, professeur Diagana, justement, quand il y a de l'automédication, qu'on prend des antibiotiques sans ordonnance, qu'on les achète un petit peu partout, il y a quelque chose de un risque particulier qui s'installe. C'est la résistance aux antibiotiques. Et vous, vous avez mené des recherches, des études en particulier sur cette question chez vous à Nouakchott.
Oui, tout à fait. Nos collègues biologistes ont fait un excellent travail sur cette recherche de résistance aux antibiotiques. Les résultats sont alarmants parce que la plupart des antibiotiques que nous utilisons en première ligne dans le traitement des infections urinaires, je pense aux fluoroquinolones notamment, on a une grande résistance des germes urologiques à ces antibiotiques. Donc c'est quand même très très inquiétant. Donc on a attiré la sonnette d'alarme pour que la prescription d'antibiotiques soit beaucoup plus réglementée et que cette automédication et cette inobservance thérapeutique puissent disparaître pour essayer un peu de réduire ce fléau de résistance bactérienne. À titre d'exemple, dans cette thèse où a été décrit, on trouve que, par exemple, l'Escherichia coli, qui est le germe le plus pathogène en matière d'infection urinaire, a une forte résistance au fluoroquinolone, à la ciprofloxacine dans notre pays. Donc, ce qui freine vraiment complètement la prise en charge initiale des infections urinaires.
Oui. En conclusion, vous connaissez bien sûr les obstacles, les freins qui empêchent de bien prendre en charge ces infections. Quel conseil, hein, en quelques mots, vous avez envie de donner aux auditeurs, aux auditrices à l'écoute?
Alors, j'ai bien écouté le début de votre émission. Donc, il faut compter qu'en Afrique, il y a une grande population rurale qui n'a pas accès aux médecins, qui n'a pas accès aux soins, aux antibiotiques. Donc, il y a les règles hygiéno-diététiques. On est dans des pays chauds. Il faut conseiller, mon collègue l'a dit tout à l'heure, la boisson abondante pour qu'il y ait ces flux urinaires continus. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut créer dans le milieu scolaire et dans le milieu de travail des environnements propices, surtout pour les femmes, pour qu'elles puissent aller dans les toilettes, parce que les jeunes filles vont à l'école, il n'y a pas de sanitaire, elle est obligée de garder ses urines quasiment toute la journée. Elle va au bureau, elle est quasiment obligée de garder ses urines toute la journée parce qu'il n'y a pas de sanitaire approprié pour se soulager. Donc le fait de garder ses urines entraîne des infections urinaires. Donc il faut améliorer les sanitaires dans les structures scolaires et dans les lieux de travail. Dans le même volet, lorsqu'elles ont leur menstruation à l'école ou au lieu de travail, il n'y a pas suffisamment d'endroits intimes pour pouvoir se changer. Elles sont obligées de garder leur serviette longtemps. Donc tous ces facteurs exposent un peu à l'infection urinaire. Et la dernière chose qu'il faut souligner, c'est que dans le milieu rural, il n'y a pas forcément des sanitaires. Les femmes souvent sont obligées de se soulager à même le sol. Et donc ce retour des urines tout tapant le sol expose la dame à une infection urinaire courante. Donc c'est des pratiques à dire aux uns et aux autres d'essayer de les éviter pour que ces infections urinaires ne surviennent pas de façon récurrente et de façon répétée. Voilà.
Voilà, droit à la santé, droits humains, droits des femmes, tout ça, ça va ensemble. C'est le droit à l'hygiène, c'est aussi essentiel, on n'y pense pas forcément, mais le droit à l'hygiène, c'est absolument essentiel. Un grand merci à vous, professeur, bonne journée à Nouakchott, docteur Bobot. On arrive à la conclusion de notre émission, on donnait des conseils, justement, des choses simples, pratiques du quotidien, parce que ces infections urinaires, ce sont aussi des bobos, des maux du quotidien. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter ?
Moi, je vais simplement rajouter qu'encore une fois, de l'eau, uriner, ne pas se retenir d'uriner. Et juste un mot pour les femmes, c'est très important, les femmes qui ont des problèmes de constipation chronique, ce sont des femmes qui sont davantage exposées aux cystites. Donc, bien gérer aussi ce problème intestinal. Et surtout, se traiter dès les premiers symptômes et pas avec n'importe quoi.
Il y a un mot qu'on n'a pas, un petit dossier qu'on n'a pas traité. Il y a des médicaments qui peuvent être facteurs d'infection urinaire, certains médicaments ?
Non, il n'y a pas de médicaments qui peuvent être... Par contre, il y a des médicaments qui, pris n'importe comment, peuvent provoquer des résistances aux antibiotiques. On vient d'en parler, d'ailleurs.
Et puis, il y a une question simple aussi, ça c'est plus en milieu hospitalier ou des personnes qui ont d'autres pathologies. C'est quand on sonde, voilà, c'est aussi un sujet...
Ça, c'est des pathologies bien particulières.
Bien particulières. On vous remercie infiniment pour toutes ces explications, docteur Jean-Marc Bobot. Toutes ces réponses à nos auditeurs, très très bonne journée.
Merci.
Un entretien à suivre dans Priorité Santé, la responsable régionale Afrique pour le Fonds mondial, Cathy Falso. Ce sera juste après ce titre de Kamao, Adi Oasis, Mango sur RFI.
Giving up, giving it up is not giving up. If I had to break the news, is it when I lose?
La lutte contre les pandémies dans un contexte de tensions internationales et de baisse des financements, on en parle maintenant dans Priorité Santé, en ouvrant le micro de RFI à Cathy Falso. Bonjour madame.
Bonjour Caroline.
Vous êtes responsable régionale Afrique du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Vous étiez à Paris la semaine dernière à l'occasion de la journée scientifique sur la santé communautaire, l'occasion de comprendre les répercussions très concrètes de la baisse des financements internationaux pour la santé des populations les plus vulnérables. Il y a 3 mois, la directrice exécutive de l'ONU-Sida, Winnie Byanyima, disait craindre le retour de la pandémie de sida suite au retrait de l'aide financière américaine. Cathy Falso, est-ce que vous partagez cette crainte aujourd'hui ?
Merci beaucoup Caroline. Je crois que c'est une vraie question d'actualité aujourd'hui. Baisse des financements, pas seulement au début de cette année 2025, mais les annonces avaient déjà commencé en 2024. Et je pense que ça nous a tous poussés à mûrir la réflexion de l'après. Alors, retour de la pandémie, on est encore dans la pandémie du VIH-Sida. Aujourd'hui, on a approximativement 40 millions de personnes vivant avec le VIH, peut-être 77% sous ARV.
Antirétroviral, c'est-à-dire
le traitement qui permet justement de vivre sainement avec cette maladie, mais également de se protéger quant à propager la maladie. Donc, extrêmement important. Et je dirais qu'aujourd'hui, le vrai défi, c'est comment maintenir les financements pour le dépistage, mais également pour le traitement de la maladie, et continuer à maintenir les personnes qui sont déjà sous ce traitement, sous traitement. Notre vraie crainte aujourd'hui, c'est qu'avec ce changement de l'échiquier de financement de la santé mondiale, si d'autres financements ne sont pas mis à profit, qu'il y ait en fait péril sur la continuité des traitements. Et ça, c'est une vraie crainte.
Il faut bien comprendre, le Fonds mondial, c'est une sorte, on va dire, de banque générale qui redistribue pour des actions de terrain. Est-ce qu'il y a eu des remontées, justement, notamment d'Afrique subsaharienne, des personnes qui vous disent « aujourd'hui, je ne peux déjà plus travailler ».
On a énormément de remontées du terrain, parce que déjà, les annonces provoquent en fait une panique. Tout de suite, Cathy Fall, qui est sous antirétroviraux, qui prend son traitement, qui vit bien, qui travaille, qui est productive, lorsqu'elle lit ces annonces, qu'elle se dit, c'est demain, je n'ai plus accès à mon médicament.
C'est l'angoisse.
C'est l'angoisse totale. Par contre, ce que je peux dire, c'est que lorsque les annonces ont été, je dirais, disséminées, tous les pays ont pris leurs responsabilités pour mieux comprendre ce qui existait dans la chaîne d'approvisionnement, les stocks existants de tests, mais également les stocks existants de traitements.
Est-ce que ça veut dire que, d'une certaine manière, ça a forcé à une forme de responsabilisation ?
Je dirais que ça a apporté un sursaut. La responsabilisation était déjà là. Mais on est responsable en sachant qu'il y a une partie qu'on gère nous-mêmes et une partie que Caroline, qui est un donateur, gère. Le jour où Caroline dit bah, « Tiens, ce financement, malheureusement, je ne peux plus vous le donner », mais on se réveille, il y a quand même un sursaut. Comment est-ce que je vais suppléer à cet écart que Caroline me laisse ? Donc, je pense qu'il y a une remontée du terrain, non seulement sur les risques liés donc à la chaîne d'approvisionnement, donc la disponibilité des tests et du médicament, mais il y a également, je dirais, une remontée sur beaucoup plus que ça. Quand on parle du VIH, c'est aussi la question du laboratoire. C'est aussi la question des ressources humaines en santé qui offrent le service à toutes ces communautés qui sont sous traitement.
Et précisément, l'action communautaire qui est initiée par cette riposte à la lutte contre le VIH-Sida, il faut le dire, c'est insister là-dessus, ça bénéficie à d'autres problématiques de santé. En fait, l'argent du VIH-Sida sert à plein de choses. Il y a le paludisme, bien sûr, il y a la tuberculose, mais il y a aussi la santé sexuelle et reproductive et il y a toutes les infections en général.
Absolument, absolument. Et je crois que c'est pour ça qu'on dit toujours, on utilise le levier d'un financement maladie pour en fait bénéficier à d'autres maladies et au système de santé, qu'il soit public ou communautaire.
Alors, il y a toutes ces questions du financement qui sont très importantes. On va parler, si vous le voulez bien aussi, de plusieurs actualités qui concernent les traitements. C'est tout récent. Les États-Unis viennent d'approuver un traitement préventif injecté longue durée, qui devrait protéger les personnes 6 mois contre le VIH. Énorme problème, c'est son coût. Aujourd'hui, 28 000 dollars par an, 25 000 euros. Alors, comment l'ONU-SIDA travaille sur cette question à l'accès des traitements innovants ?
Nous, au niveau du Fonds mondial, Déjà sur la question du médicament, hein, que ce soit sur le paludisme, la tuberculose ou le VIH, on est dans un partenariat avec toutes ces organisations qui produisent les médicaments. C'est pour ça qu'on a un mécanisme qu'on appelle le mécanisme d'achat groupé, où en fait on arrive à négocier une réduction des prix sur la base des volumes qui seront achetés pour les différents pays.
Une économie d'échelle.
Une véritable économie d'échelle. Et je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à inverser la tendance très élevée du prix du médicament sur les trois maladies d'ailleurs.
Tuberculose, paludisme et VIH.
Exactement, sur ces 20 dernières années. Alors, le lenacapavir dont vous parlez, oui, c'est une véritable avancée. Mmh. C'est une avancée programmatique parce que la femme qui aura accès au lenacapavir se retrouve avec une injection. Sur 6 mois, elle est protégée.
Contre plusieurs médicaments tous les jours à horaire fixe, extrêmement contraignants avec des effets secondaires.
Mais Caroline, vous êtes une experte.
Bah, depuis le temps.
Alors, je pense qu'aujourd'hui, avec donc Gilead, parce que vous savez que c'est Gilead donc, qui
lance
le lenacapavir, on est déjà dans une dynamique hein, de négociation afin qu'effectivement, le prix, un prix moins coûteux soit appliqué.
À quelle échéance?
À l'échéance 2026. Mais on est également dans une dynamique de discussion pour le générique. Parce qu'à la fin de la journée, si on veut parler de disponibilité, d'accès et également de coûts abordables, il va falloir passer au générique. Mais la question du générique n'est pas pour demain, elle est à l'horizon 2027.
Alors, il y a une échéance très importante, les chiffres sont là. Financement du Fonds mondial, il faut 18 milliards pour maintenir la trajectoire contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. On va parler gros sous à l'automne prochain. On en est où par rapport à ça? Le rendez-vous, il est fixé?
Le rendez-vous est fixé pour novembre 2025. Mais je pense que c'est un rendez-vous avec plusieurs jalons. La course, en fait, pour arriver à justement mobiliser ces 18 milliards de dollars. Et je pense que c'est toujours important de mettre en parallèle les financements avec ce que ça va produire. Vous savez qu'aujourd'hui, depuis donc 20 ans, le Fonds mondial, et je dirais le partenariat du Fonds mondial, a réussi à sauver 65 millions de vies. Mmh. Quand on dit 65 millions de vies pour un cerveau comme le mien, je me dis toujours ça signifie quoi? Moi, je vois des visages. Hein. C'est quasiment la population française ou celle de la Grande-Bretagne.
Absolument.
Alors, ce prochain cycle de financement où on parle de 18 milliards de dollars, ce qu'on vise de 2027 à 2029, c'est de sauver plus de 23 millions de vies. C'est énorme. Et pour nous, c'est une échéance extrêmement importante, notamment dans ce contexte extrêmement, contraint, dans ce contexte qui est en constante évolution et dans ce contexte où on demande également aux pays bénéficiaires de reprendre la main sur certains financements. Il faut parler de la transition. Donc, je crois qu'il y aura énormément d'arbitrages qui auront lieu dans ces prochaines années à venir. Mais il faut garder le cap. Et nous, pour nous, il faut redoubler d'efforts pour ne pas perdre les acquis qu'on a su réaliser tous ensemble sur ces 20 dernières années.
Un grand merci à vous, Cathy Falso, pour toutes ces explications. Merci, madame.
Merci beaucoup, Caroline.
Et Priorité Santé, c'est fini. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et réalise votre émission. Demain, on va parler des nouveaux traitements de l'obésité, en particulier de médicaments antidiabétiques détournés de leur usage initial. Le plus connu d'entre eux, c'est l'Ozempic, véritable phénomène en termes médical, mais peut-être surtout commercial. S'agit-il d'une nouvelle étape dans cette lutte contre l'obésité? On se donne rendez-vous à 9h10, temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance et soyez couverts en cas de maladie, de perte ou de vol de bagages durant vos voyages.